Un accident de la route hier soir à Calagomène. Un homme de 34 ans est décédé après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Les pompiers toujours mobilisés à Ducos après l'incendie des docks Biscochoc. Malgré la pluie, il reste encore quelques points chauds difficiles d'accès. Il y a un avant et un après 13 mai 2024. C'est le sentiment du général Mateos. Il était l'invité du magazine Transparence vendredi, extrait dans ce journal. La fin de la présentation des 8 candidates à l'élection Miss Nouvelle-Calédonie avec ce midi Fanny Palmieri et Marine Foster. À l'international, 10e jour de guerre entre l'Iran et Israël. Escalade continue, des bombardiers américains se rapprocheraient de l'Iran. Les sports et c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui rejoint le Stade Toulousain en finale du top 14. L'UBB vainqueur du RC Toulon 39 à 24 ce matin. Et puis sur le territoire, le Dumbé Archery Club organise les championnats territoriaux de tir à l'arc sur distance internationale. Reportage en fin d'édition. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Et à la une, un nouvel accident de la route hier soir sur le territoire, accident mortel qui n'implique qu'un seul véhicule. Vers 19h à Calagomène, sur la route de la tribu de Baoui, un homme de 34 ans originaire de la tribu est décédé. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule. Les gendarmes de la brigade de Calagomène, premiers à intervenir, ont tenté de lui porter secours en vain. Une enquête est en cours. Ce nouvel accident porte à 17 le nombre de morts sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. Malgré la pluie qui est tombée ces dernières heures, les pompiers sont toujours mobilisés à Ducos après l'incendie jeudi des docks Biscochoc. Michael Juneski.
Oui, de la fumée sort encore des décombres et il reste quelques points chauds, signalent ce matin les pompiers. Dans l'attente d'une intervention d'une société de déblayage pour permettre l'accès à ces points chauds, les soldats du feu continuent donc d'effectuer des rondes toutes les 3 heures pour éviter toute reprise. Je rappelle que l'incendie a été d'une ampleur importante en raison notamment de la présence d'huile végétale stockée à l'intérieur de l'un des docks. La structure métallique s'est en partie effondrée. Dans un communiqué, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait invité les riverains à prendre leurs précautions. Des nuages de fumée qui se dégageaient des bâtiments en feu étaient constitués de particules en suspension et de particules fines qui pouvaient être dangereuses pour la santé.
Il y a un avant et un après 13 mai 2024, c'est le sentiment du général Mateos, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, qui était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Le général Mateos qui va bientôt quitter ses fonctions, Michael.
Le général Mateos commande la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie depuis juillet 2022 et il avait auparavant commandé la compagnie de Nouméa et des îles de 2004 à 2007. Il connaît donc bien le territoire, mais lors de ce dernier séjour, il a été confronté aux violences insurrectionnelles inédites de mai 2024. Il affirme que, malgré son expérience, il n'avait jamais vécu une crise d'une telle intensité et d'une telle longueur, mais il n'a jamais douté de pouvoir ramener l'ordre.
Je n'ai jamais douté que nous aurions le dernier mot. D'ailleurs, je l'avais annoncé assez vite. C'était sûr que nous allions avoir le dernier mot parce que nous savons faire face à ce type de situation, parce que l'État a engagé des moyens considérables pour établir l'ordre public républicain ici sur ce territoire de Nouvelle-Calédonie, parce que je connais bien la gendarmerie. J'ai entièrement confiance dans la capacité à la gendarmerie, que ce soit la gendarmerie territoriale, la gendarmerie mobile qui a été en première ligne, mais aussi les forces spéciales de la gendarmerie, le GIGN. Je sais que nous sommes capables de faire face à toutes les situations, y compris les plus dégradés, y compris les plus dégradés le plus loin de notre territoire hexagonal. Donc je savais que nous aurions le dernier mot.
Et dans cette crise insurrectionnelle, le général Mateos tient à souligner le discernement et l'usage proportionné de la force dont a su faire usage la gendarmerie.
Ça a été dur, ça a été très long, et nous savions dès le début que ça allait être dur et très long. Mais nous l'avons fait avec toute la rigueur et la fermeté nécessaires. Nous l'avons fait aussi avec le plus grand discernement. Et quand je parle de discernement, je crois que ce qui a été essentiel, c'était la maîtrise de la force, parce qu'ici nous sommes en République française, et que la force qui nous est confiée, qui est confiée à la gendarmerie, ne doit pas devenir la violence. Et nous aurions pu sans doute hâter les choses en montrant de la violence qui aurait été catastrophique, ce qui aurait été contre nature et qui aurait empoisonné l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons agi avec toute la fermeté, parce que force doit rester à la loi, mais aussi avec tout le discernement dans l'usage de la force, parce que c'est notre légitimité et puis c'est aussi notre honneur.
Le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie reste bien sûr très marqué par cet épisode de violence, mais il a la conviction d'avoir évité la guerre civile.
Nous avons été marqués par ce déchaînement de violence. Alors c'est notre métier d'y faire face, mais nous avons quand même été très marqués. Et quand nous regardons en arrière ce qui a pu se passer, effectivement, à un moment, les tensions étaient d'une telle intensité, la violence avait atteint un tel paroxysme que si l'État n'avait pas été en mesure d'apporter une réponse ferme, massive, déterminée par l'envoi d'escadrons qui immédiatement ont pu reconquérir le terrain Nouméa, dans le Grand Nouméa et en Brousse, je pense que si l'État avait failli, il y aurait pu avoir des réactions de légitime défense, en tout cas c'est comme ça que certains l'avançaient. Donc effectivement, la réponse de l'État a permis d'éviter que certains considèrent que c'était à eux de se défendre parce qu'il y avait une carence.
Interrogé sur les nombreux renforts qui sont arrivés de métropole, le général Mathéos parle de miracle logistique dans la coordination de ces différentes forces. Il revient aussi sur le cas particulier de Saint-Louis et du fameux verrou.
Le verrou est une exception calédonienne, il y a beaucoup d'exceptions ici sur ce territoire. Le verrou en est une, je sais qu'il n'y a aucune route sur le territoire français qui bénéficie d'un tel dispositif qui consiste à être en mesure pour nous les gendarmes de fermer un axe à la circulation. Dispositif aussi qui permet d'assurer une densité de gendarmes très importante. Le haut commissaire de la République m'a confirmé sa volonté de sanctuariser cet axe pour empêcher toute violence, pour prévenir toute tentative d'agression. C'est une question délicate Saint-Louis, je sais que beaucoup ont souffert, mais c'est mon devoir de rendre hommage à tous ceux qui, à la tribu, au sein de la tribu, ont fait en sorte et font encore en sorte que les choses puissent évoluer favorablement. Il y a des tas de personnes de bonne volonté dans cette tribu. Je pense aux mamans qui ont joué un rôle important à la fin de la crise. Je pense aussi en ce moment aux coutumiers qui ont compris qu'il fallait reprendre en main une jeunesse qui s'était complètement perdue.
Une jeunesse de Saint-Louis qui crée un véritable problème, affirme le général Mathéos.
C'est vrai que des jeunes de cette tribu posent des problèmes graves, puisque nous étions quasiment en situation de guerre avec des jeunes qui voulaient tuer des gendarmes, hein, c'était clairement leur intention. J'espère que l'avenir sera plus paisible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une jeunesse à Saint-Louis qui est perdue, qui s'est perdue dans la violence la plus aveugle, qui prend en otage une partie de la population, une partie de la population de la tribu, mais aussi et surtout les gens qui habitent le Sud. C'est scandaleux. C'est complètement immoral, c'est lâche. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes présents et nous resterons présents jusqu'à ce que cette menace soit éradiquée.
Des renforts de forces de l'ordre qui sont également maintenus pour faire face à la situation que connaît la Nouvelle-Calédonie avec une hausse de la délinquance. Pour le général Mathéos, il y a clairement un avant et un après 13 mai.
Depuis le 13 mai, nous entendons ce que nous appelons un bruit de fond qui se caractérise par des faits plus fréquents et sans doute plus grave que ce que nous pouvions constater en période normale avant le 13 mai. Et quand je parle de faits plus graves, c'est des agressions systématiques contre les gendarmes, mais c'est aussi le fléau des cambriolages, c'est aussi des attaques à main armée. Donc clairement, nous sommes face à le maintien d'une délinquance à un niveau qui est anormalement élevé si on regarde l'histoire dans le moyen terme de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est bien la raison pour laquelle nous maintenons un dispositif fort, sous contrôle très étroit du haut-commissaire de la République, à qui je rendais compte quotidiennement sur l'engagement des gendarmes, et notamment des gendarmes mobiles, que ce soit à Nouméa ou dans le Grand Nouméa ou ailleurs dans le territoire, parce que nous devons maintenir cette présence.
Le général Mathéos qui va rejoindre Paris à l'issue de ce séjour calédonien, et c'est le général Aouchine qui va lui succéder.
Et vous pourrez réécouter ce soir dans son intégralité cette interview du général Mathéos. Elle sera rediffusée juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi, je le rappelle, disponible en audio et en vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Ouvéa, c'est le 103.5.
Le comité Miss Nouvelle-Calédonie a présenté vendredi les 8 candidates pour le concours 2025. On rappelle que de nombreux critères ont été élargis par le comité Miss France depuis 2022. Les jeunes femmes auront 3 mois pour se préparer à l'élection. Nous vous proposons d'entendre tour à tour sur Radio Rythme Bleu l'ensemble des candidates ce week-end. Après les 6 premières que vous avez pu écouter dans nos précédentes éditions, place à la candidate numéro 7, Fanny Palmieri, âgée de 18 ans.
Si j'ai voulu me présenter, c'est parce que je trouve que l'expérience des Miss, elle est extrêmement enrichissante. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à développer. Et je trouve ça vraiment génial et on peut défendre des causes assez importantes pour le pays, surtout en ce moment. Donc c'est pour ça aussi que je voulais participer. Pour moi, une Miss, c'est beaucoup de choses. Déjà, ça représente l'image d'un pays. Donc c'est vraiment ce que le pays veut renvoyer comme message, comme image. Donc déjà pour ça c'est important, et puis une Miss c'est quelqu'un qui va vraiment se porter volontaire pour participer à plein de choses dans le pays en fait, qui va vraiment être active et faire plein de mouvements pour le pays.
Et maintenant la dernière candidate, la numéro 8, Marine Fostur, âgée elle aussi de 18 ans.
Je suis super contente de participer à la candidature de Miss Nouvelle-Calédonie. C'est un défi personnel afin de vaincre ma timidité. Et c'est un combat et c'est pas facile tous les jours. C'était un super gros challenge parce que je savais que j'avais énormément de regards rivés sur moi. Mais je pense que j'ai su bien cacher toute cette timidité. Être Miss, c'est pas seulement représenter la beauté, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que derrière, il y a beaucoup de travail personnel, il y a des déceptions parfois. Et on essaye de valoriser d'une autre manière que la beauté afin de pouvoir transmettre des messages au public. À toutes les personnes qui se sentent différentes, qu'on est tous différentes en fait, et que tout le monde est unique, et c'est pas un défaut de se voir de cette manière. C'est vraiment le message que je voudrais faire passer.
Les portraits des 8 candidates sont à retrouver sur notre site internet www.rrb.nc. Je rappelle que l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie aura lieu le 6 septembre prochain au Méridien. Dans le reste de l'actualité, le marché musico-alternatif du parc du Receiving. Le rendez-vous se poursuit ce dimanche dans le quartier de Motorpool, Michael.
Une double occasion pour découvrir les exposants installés dans le parc tout en profitant des animations musicales au détour des stands. La belle balade pour la petite Cali, son père Jonathan ou encore Patricia qui souhaitait faire coup double au lendemain de la fête de la musique.
C'est la première fois que je viens, je crois. Et c'est cool, en plus le soleil il est de retour, du coup ça fait plaisir. Je suis venue pour le marché. Je suis venue soutenir mon amie Esther Wamejo.
Qui chante en ce moment même?
Imoui ce matin.
C'est quoi que tu préfères depuis ce matin?
Je préfère.
La dame qui chante, t'aimerais bien être comme elle plus tard?
Oui.
C'est bien, c'est une bonne initiative. En plus il fait beau. Faites de la musique, c'est cool. Il y a une chanteuse, franchement c'est cool. Une bonne occasion de découvrir un peu ce qui se fait localement en termes d'artisanat et puis en termes de chansons du coup. Donc c'est bien.
Et le soleil est de la partie aujourd'hui. Cet événement ravit les artisans ayant fait le déplacement comme Priscilla.
C'est trop bien, ça donne la good vibe, c'est extrême, c'est trop bien. Moi je suis exposante ici, c'est mon premier marché alternatif et franchement c'est top depuis hier, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Je fais des objets et des bijoux en résine, notamment tout ce qui est inclusion de souvenirs, donc ça va être mèches de cheveux de bébé, les maternelles, les poils des animaux, le bouquet de la mariée, c'est ce que je fais. C'est rafraîchissant parce qu'on voit que les Calédoniens ont envie de consommer, surtout local, et donc c'est trop bien. Et de la musique en prime, avec des super chanteurs et chanteuses, donc c'est top.
Et le marché musico-alternatif du Parc Brunelet, un rendez-vous qui continue jusqu'à 17h cet après-midi.
Merci Mickaël, on marque une première pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité nationale et internationale.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Retour de la danse sur la scène du Théâtre de Lille. Danse contemporaine, hip-hop énergique et poétique. 6 ans après une première venue, la compagnie Pyramide danse sous le poids des plumes, mêlant théâtre gestuel, mime et burlesque. De Rochefort à Nouméa, l'une des grandes compagnies de danse urbaine a rendez-vous avec vous. Samedi 21 et dimanche 22 juin à 18h, réservation sur ticket.nc.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend avec l'actualité dans le monde, on retrouve Léo Fichou.
10e jour de guerre entre Israël et l'Iran. L'armée israélienne annonce notamment avoir lancé aujourd'hui une nouvelle salve de frappes contre les infrastructures militaires iraniennes. Des frappes qui se poursuivraient ce soir dans la région de Bandar Abbas, grand port du sud de l'Iran. Côté israélien, c'est un drone iranien qui a frappé ce matin un immeuble résidentiel à Beit She'an. Au nord du pays, c'est aussi la ville de Haïfa qui est particulièrement visée par les missiles iraniens. Un missile s'est même écrasé tout proche de la ville, faisant une trentaine de blessés. Haïfa qui prend désormais des airs de ville fantôme. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Dans le quartier du port habituellement très fréquenté le week-end, et bien aujourd'hui il n'y a personne dans les rues. C'est là où l'un des missiles a frappé hier. J'ai seulement rencontré quelques fidèles musulmans venus prier dans une mosquée partiellement détruite par les frappes. Adam, lui, rentrait chez lui avec ses enfants tout à l'heure.
La situation est très sombre. Les gens ici ont peur. Vous pouvez le voir quand vous sortez dans la rue. C'est comme pendant la période du Covid. Les rues sont vides, tout le monde reste à la maison. Dans les abris pour ceux qui le peuvent. Les commerces sont fermés.
Pour retrouver un semblant de vie, il faut monter sur les hauteurs de la ville, dans le quartier de Carmel qui surplombe la baie de Haïfa. Quelques personnes s'aventurent dans un parc. Il y a un abri tout proche, m'explique Marina.
On est fatigué de rester enfermé à la maison, donc on a décidé de sortir avec nos enfants aujourd'hui. Mais avant de sortir, on vérifie où se trouvent les abris sur notre chemin, pour savoir où aller en cas de bombardement.
Forcément, depuis 9 jours, la menace iranienne est dans tous les esprits. Lettrée, tirée par la fatigue, Anastasia, elle, ne rêve que d'une seule chose.
Désormais, le bonheur pour moi, c'est de réussir à dormir une nuit entière sans avoir à me rendre dans l'abri. Cette semaine, il n'y a eu qu'une seule nuit où ça a été possible.
La nuit s'annonce une nouvelle fois très incertaine ici à Haïfa, comme dans le reste du pays.
Israël, à présent menacé par l'Iran d'une riposte encore plus dévastatrice, propos de son président. Et malgré ces menaces, Emmanuel Macron a lui affirmé que les Européens allaient accélérer les négociations avec l'Iran pour, je cite, « sortir de la guerre et éviter de plus graves dangers ». À noter enfin que, selon une information de l'agence Reuters, des bombardiers B2 américains feraient actuellement route vers le Pacifique et se rapprocheraient donc de l'Iran. L'actualité en Ukraine, à présent, le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir remis volontairement à Kiev le corps de 20 membres issus de troupes russes, celui aussi d'un citoyen israélien, et non les dépouilles de soldats ukrainiens comme convenu lors des accords d'Istanbul signés au début du mois de juin. Volodymyr Zelensky qui pointe aussi du doigt certaines entreprises occidentales, des entreprises allemandes, tchèques aussi, qui continueraient à approvisionner la Russie en matériel servant à fabriquer des armes. Il appelle à des sanctions contre ces sociétés. Dans l'actualité en métropole, la fin ce dimanche du Salon du Bourget, Salon international de l'aéronautique et de l'espace. C'est un secteur qui cherche à recruter par milliers. 29 000 embauches en 2024, 25 000 déjà cette année. Le secteur aéronautique qui le fait donc savoir à l'occasion de ce salon. En CDI, en alternance, dans l'aéronautique ou le spatial, tous les acteurs ont des besoins pour monter en cadence. Car oui, pardon, les commandes sont là, mais la production ne suit pas. Les vagues de départ liées au Covid n'ayant pas été compensées. Le secteur fait donc tout pour se rendre attractif. Philippe Dujarric, directeur des affaires sociales du GIFAS, qui regroupe tous les industriels du secteur.
Avec France Travail, on a un partenariat pour utiliser aussi la reconversion des personnes qui viennent de secteurs complètement différents en quelques mois.
Illustration au sein du groupe DAER, Vincent Mattei, responsable du recrutement.
Des métiers comme ajusteur, chaudronnier, intégrateur cabine. Là, c'est des formations qu'on propose pour des gens qui n'ont pas d'expérience, qui ont un certain nombre d'habiletés manuelles. Il y a une pénurie de profils sur ces métiers-là.
Et c'est aussi un sujet d'attractivité pour les plus jeunes, en particulier les filles. Alors Marjorie Cavaroc-Weimer, ingénieure matériaux chez Safran, va à leur rencontre pour faire de la pédagogie.
On a ceux qui pensent que c'est pas fait pour eux. Chez les jeunes filles, c'est plus marqué que chez les jeunes hommes. Ils ont l'image d'il y a un siècle, en fait. Ils se rendent pas du tout compte qu'aujourd'hui, une forge, une fonderie, c'est de la haute technologie. On peut manger par terre dans l'atelier, ça demande pas de force physique. Donc on démystifie tout ça.
L'industrie aéronautique compte 27% de femmes, c'est 7% de plus qu'en 2015, mais la parité est encore très loin. En bref, en métropole, ce nouveau bilan dans l'affaire des intoxications alimentaires à Saint-Quentin, dans l'Aisne, 15 cas d'enfants désormais sévèrement touchés par ces intoxications. Je rappelle qu'une jeune fille de 11 ans est décédée. À noter que le rayon boucherie d'un supermarché est désormais dans le viseur de l'État. Midi passé de 18 minutes, seconde pause dans ce journal, on parlera sport juste après.
Savez-vous que la pièce qui consomme le plus d'énergie est la cuisine ? Pensez à couper l'alimentation de la plaque électrique ou de votre four quelques minutes avant la fin de cuisson, car la chaleur résiduelle permet de terminer la cuisson ou de garder les aliments en chaud.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur. Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le 4 juillet à 14h. 371 francs par SMS. Règlement du jeu disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance. Envoyez RRB au 40-20.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Léo Fichou.
Et à la une de cette actualité sportive du rugby, on connaît l'affiche de la finale du championnat de France, Michael Juneski.
Ce sera donc un remake de la dernière finale, Toulouse contre l'UBB. Aujourd'hui, l'Union Bordeaux-Bègles s'est imposée sur Toulon, le score 39-24. Accroché à la pause par le RCT, les Girondins ont accéléré en deuxième période pour s'imposer aisément lors de cette deuxième demi-finale du championnat de France. Le récent vainqueur de la Champions Cup jouera donc pour le bouclier de Brennus et tentera de détrôner le Stade Toulousain. Maxime Lucul, demi d'ouverture de Bordeaux-Bègles.
Les intentions qu'on a mises aujourd'hui, voilà, tout n'est pas parfait. C'était difficile de jouer sous cette chaleur. Il y a eu quelques imprécisions, mais force est de constater que ce qu'on avait mis en place contre cette belle équipe de Toulon a marché, donc on est content. Maintenant, on sait qu'arriver en finale, ça garantit rien. On l'a vu l'année dernière, donc maintenant, il faut repartir au boulot. On a 7 jours pour préparer ça. Mais en tout cas, on est content de passer cette étape-là.
Et pour rappel, hier matin, dans l'autre demi-finale, le Stade Toulousain s'était imposé sur l'Aviron Bayonnais 32-25. Il y aura donc un air de revanche dans l'air entre l'UBB, qui a infligé à Toulouse une défaite en Champions Cup, mais aussi en Championnat de France lors de la phase régulière, alors que les Toulousains, eux, avaient surclassé l'Union Bordeaux-Bègles l'année dernière dans cette finale du top 14, 59-3. La grande finale à suivre dans une semaine.
Du rugby, toujours avec la victoire du 15 de France remanié face à l'Angleterre, c'était en match amical.
Les joueurs cadres étaient en effet concernés, on vient de le dire, par les phases finales du championnat de France. C'est donc un effectif rajeuni qui est allé défier le 15 de la Rose à Twickenham. Malmené pendant 60 minutes par la rapidité du jeu des Anglais, les Bleus ont finalement retourné le match dans les dernières minutes. Ils étaient menés 24-12 à la 75e minute, avant que Julien Marchand et le Calédonien Romain Taofifénois n'inscrivent chacun un essai et s'est transformé par Antoine Astoy. Score final 26-24 pour le 15 de France. De bon augure pour le sélectionneur qui avait donc fait appel à de nombreux novices pour cette rencontre, mais déjà dans la perspective de partir en Nouvelle-Zélande pour affronter à 3 reprises les All Blacks sur leur terre. Ce sera au mois de juillet.
Un mot de basket pour signaler la victoire des Françaises contre la Suisse pour le compte de la 3e journée des phases de groupe de l'Euro. Un succès 111-37. Les tricolores sont en tête du groupe A. Les sports mécaniques, le Grand Prix d'Italie de MotoGP est au menu ce week-end.
Et après avoir signé la pole position, Marc Marquez a remporté la sprint race sur le circuit du Mugello. Il a devancé, comme souvent depuis le début de la saison, son frère, Alex Marquez. C'est Pecco Bagnaia qui complète le tiercé. Fabio Quartararo, victime d'une luxation d'une épaule lors des essais libres, a longtemps joué les premiers rôles avant de baisser de rythme et de terminer finalement à la 10e place. Johann Zarco, lui, a chuté dès le premier tour, touché par Brad Binder. Ce soir, le départ du Grand Prix d'Italie sera donné à 23h, heure de Nouméa. Marc Marquez s'élancera donc en tête devant Pecco Bagnaia et son frère Alex Marquez. Fabio Quartararo sera sur la 2e ligne en 4e position. Johann Zarco partira, lui, de la 14e place.
Et puis en tennis, Carlos Alcaraz disputera une nouvelle finale après Roland Garros. Cette fois, l'Espagnol tentera de conquérir le titre sur le gazon londonien du tournoi du Queens. Il sera opposé au Tchèque Jiří Leeka.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Le sport en Calédonie avec les championnats territoriaux de tir à l'arc extérieur sur distance internationale se déroule à Koutio.
Ouais, ça correspond aux distances olympiques, hein, une compétition organisée par le Dimbéa Archery Club, épreuve qui nécessite rigueur et concentration, d'autant plus lorsque la météo ajoute une contrainte pour les archers. Ça fait partie du jeu, nous explique Jean Delannay, le président du Dimbéa Archery Club.
On est obligé de faire avec, de toute façon on n'annulera jamais une compétition pour cause de mauvais temps, sauf pour cause de cyclone ou dépression. Là, ça ne dépend pas de nous. Mais l'archerie étant un sport, un art martial, on n'arrête pas une bataille à cause de la pluie.
Les pratiquants, ceux qui aiment la compétition avant tout dans le tir à l'arc, dans quel état d'esprit sont-ils ?
Bon, on a pris une petite claque avec l'annonce de l'annulation des déplacements au mini-jeu de Palau. Mais on a cette capacité de se projeter également sur l'avenir. Donc maintenant, on vise les championnats de Nouvelle-Zélande ainsi que les Jeux du Pacifique en 2027. On est très très confiants et les archers sont très très motivés.
Et parmi les participants, Léo Giban, il avait déjà décroché entre autres un titre de vice-champion de France ainsi qu'une médaille d'or au championnat d'Océanie. S'il vit depuis 3 ans maintenant en métropole, un retour en Calédonie pour des vacances reste l'occasion pour lui de retrouver la grande famille des archers calédoniens.
Je fais du tir à l'arc depuis 14 ans maintenant. J'ai commencé quand j'avais 7 ans, toujours sur le cap de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Je reviens de temps en temps ici, et ça fait plaisir de refaire des compètes sur le territoire. J'ai réussi à continuer le tir à l'arc, que je vais faire les championnats de France là-bas. J'emmène mon arc partout. Et surtout que la dernière fois que j'étais venu pour les Jeux du Pacifique. C'est toujours sympa de venir pour tirer. Ce qui me plaît le plus, surtout, c'est la compétition, cet esprit de compétition-là. Malgré qu'on s'affronte pas directement avec un adversaire, tu t'affrontes toi-même, tu dois être à 100%, 120% sur chacune de tes flèches à chaque instant. Sur une compétition qui peut être très longue, c'est vraiment ce que j'aime bien dans ce sport. L'ambiance en Calédonie est vraiment très cool, bien plus ouvert qu'en France, même si ça reste une discipline où les gens sont assez ouverts. Donc c'est vraiment cool de venir tirer ici. J'ai dans ma ligne de mire Tahiti 2027, je sais pas comment ça va se passer, j'ai pas encore la vision des choses, mais c'est exactement un objectif, un gros objectif pour moi, cette échéance-là.
Voilà, une vingtaine de pratiquants est engagée ce dimanche sur ces championnats de Calédonie de tir à l'arc extérieur sur distance internationale.
Un coup d'œil à présent, Mickaël, au reste des résultats du week-end.
Du football d'abord, la cinquième journée de Super League. L'AS Cougné s'est imposé sur le FC Negeo 3-1. Yengen Sport l'a largement emporté face à Horizon Patho 4-1. Victoire également de l'AS Lossi sur le CA Saint-Louis 3-0. Et puis Gaïcha a dominé le Mondor 2-0 au classement Tiga Sport et Magenta. Exemple de cette cinquième journée, reste toutefois en tête de leur groupe. Il y avait aussi le retour de la Super League de futsal ce week-end. 7 matchs au programme hier. 5 à la salle Omnisport de Lens-Vata et 2 sur Wailou. Deux autres matchs se jouent encore à Koné ce dimanche. On notera déjà les victoires de l'ASPTT, du FC Ferrand et de l'UNC. De la voile, la New Caledonia Groupama Race. La remise des trophées avait lieu hier soir. Je rappelle qu'au classement en temps compensé, c'est Guilty Pleasure Speed Marine Epuro qui l'a emporté. Benz et Léon Maynette avec Michel Quintin et Yann Rigal s'est imposé en temps compensé double et en temps réel en double. Les Néo-Zélandais de V5 terminent premier en temps réel chez les monocoques. Les Australiens de Womans terminent, eux, premier chez les multicoques en temps réel et compensé. Du côté de Boulou Paris, les courses hippiques étaient de retour hier, deuxième rendez-vous de la saison déjà. 6 courses étaient au programme sur le prix Raymond Pan, la course d'ouverture où on signalera la victoire de Baby Groove devant Star de Watom et Anything Boxing Vanina de Tamoa. Et puis un mot de drift, le deuxième round du King of Drift, c'était sur le circuit de Tomo Valley chez les pros dans une finale disputée hier soir. C'est Mathieu Fouché qui s'est imposé face à Nicolas Thévenet.
Merci beaucoup Mickaël, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Il sera disponible dans quelques instants sur notre site internet et moi je vous dis à tout à l'heure à 13h pour le rappel des titres.